Bonjour et bienvenue dans le quatrième numéro de BOF, l'émission des images qu'on écoute. Aujourd'hui, hommage à un compositeur de musique de film qui nous a quittés très prématurément il y a 50 ans, François de Roubaix.
Si vous voulez, la musique, contrairement à beaucoup d'autres arts, ne vient pas de l'alambic du cerveau, elle vient directement de la sensibilité. C'est ce qui, moi, me séduit infiniment parce que je crois que je suis plus insensible qu'un intellectuel, si vous voulez.
Je préfère, pour ma part, de beaucoup, faire la musique d'un court-métrage industriel sur la fabrication des boîtes de conserve, dans la mesure où ce produit correspond à une définition précise, plutôt que de faire, si vous voulez, la musique sur un film qui est un pseudo-intellectualisme pour snob. Et c'est un peu des choses comme ça qui me déterminent dans mes décisions.
François de Roubaix, un bonhomme plutôt franc du collier, dont la trajectoire fulgurante, interrompue brutalement, a contribué à alimenter la légende. En effet, durant la seule décennie 1965-75, il a été le compositeur de musique de film le plus fascinant du cinéma populaire français. Né en 1939, François de Roubaix s'est lancé très jeune dans l'aventure et en complet autodidacte.
J'ai commencé par le jazz. Alors ma formation, à partir de là, a été totalement empirique. À la fois le jazz, si vous voulez, c'est une musique extrêmement empirique puisque c'est une musique qu'on n'apprend pas, une musique qu'on fait essentiellement à l'oreille. J'ai pas du tout étudié l'harmonie, j'ai pas du tout étudié le contrepoint. La technique du cinéma, là, je l'ai apprise moi aussi d'une façon empirique. C'est en faisant énormément de courts-métrages, de publicitaires. J'étais assistant en mise en scène, j'étais photographe de plateau, ingénieur du son. Et alors à l'époque j'ai commencé le jazz, j'ai fait un petit peu de montage. Et puis c'est à ce moment-là que, au cours d'un film où je faisais du montage, que les deux choses se sont rejointes, la passion musique et l'envie de faire du cinéma. Puis on s'aperçoit très vite que la musique de film est un des domaines où la musique est la plus vivante. On peut en faire un métier complet. Alors si vous voulez, la musique de film se situe un petit peu à mi-chemin entre la musique très sérieuse et la musique de variété, qui l'est peut-être un peu moins. Et moi j'y ai trouvé nourriture et plaisir, voilà.
La liberté que François de Roubaix a trouvée dans le jazz, cette façon de jongler sans contrainte avec l'harmonie et les instruments, donnera à son écriture une impulsion de liberté définitive. Il maintiendra d'ailleurs toute sa vie des sessions de week-end chez lui avec une bande de potes pour improviser ensemble autour du jazz.
C'est vraiment un plaisir, le jazz. C'est une chose très collective, un peu scoutesque, comme ça, c'est ce qui paraît bizarre par rapport au milieu jazzistique qui a été longtemps mêlé, au contraire, à la prohibition, au gangstérisme, à la drogue, mais en même temps, il y a un côté très scoutesque dans tout ça.
En 1966, son copain de jeunesse, Robert Enrico, propose à François de Roubaix d'écrire la musique de son long métrage « Les Grandes Gueules ». Tiré d'un roman de José Giovanni, ce film raconte l'histoire d'un bûcheron des Vosges, Bourville, qui hérite d'une scierie en ruine et qui décide de la remettre en état de marche en embauchant des détenus en liberté conditionnelle, dont Lino Ventura. Une atmosphère simple et musclée, dans un cadre original, c'est le type d'univers qu'appréciera souvent François de Roubaix par la suite. Pour sa première vraie bande originale, celui-ci a collé à l'ambiance du scénario des Grandes Gueules, avec des percussions qui rappellent le bois et les machines de la scierie, et une atmosphère western qui convient bien à cette histoire d'homme.
Qu'est-ce que vous voulez ?
On cherche du travail.
J'ai besoin de bûcherons, seulement de bûcherons.
Lui, il y connaît rien, mais on reste ensemble.
Mais si, c'est dur, hein ? Faut pas vous attendre à gagner des mille et des cents, hein ? Qu'est-ce que vous buvez entre les pas ?
De l'eau. On boira de l'eau.
Ah, surtout que c'est la meilleure de la région, non ?
Avec Les Grandes Gueules, François de Roubaix obtient immédiatement la crédibilité du milieu du cinéma. Il devient le symbole du jeune compositeur au parcours atypique, ce qui l'oppose à ses prédécesseurs, issus le plus souvent du conservatoire. Il est vrai qu'avec ses 27 ans, son allure d'étudiant bohème décontracté, grand, blond, beau gosse, barbu aux cheveux longs, François de Roubaix bouscule l'image traditionnelle du musicien professionnel de cinéma. Il se considère d'ailleurs plutôt comme un simple artisan, dont le sens inné de la mélodie est au service du réalisateur.
Nous faisons ce qu'on pourrait appeler un art appliqué, un art fonctionnel. Nous ne sommes pas des artistes tout à fait à part entière, dans la mesure où ce que nous faisons s'intègre dans un art collectif qui est le cinéma, et qui lui est orchestré par un metteur en scène, qui est le maître d'œuvre, et qui donc orchestre un certain nombre d'éléments artistiques, qui sont l'image, la photographie, le décor, la bande sonore et donc la musique.
En 1967, Robert Enrico le sollicite à nouveau pour le film « Les Aventuriers », encore une histoire adaptée d'un roman de José Giovanni, et encore une histoire d'amitié virile. Il y a aussi question d'un triangle amoureux tragique et de chasse au trésor sous-marine, tout pour plaire à François Droubet. C'est vrai que depuis l'âge de 12 ans, François Droubet est devenu un passionné de plongée sous-marine. Et le film Les Aventuriers cadre parfaitement avec les éléments clés de sa vie. La musique, la mer, les copains. Dans le film Les Aventuriers, on retrouve Lino Ventura, cette fois-ci avec Alain Delon.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet avion ?
Quel avion ?
Ben celui d'équipe de l'aéroclub, là. C'est bien l'avion qui est tombé en mer. Au Congo, non ?
Tu vas pas avaler ça.
Dans ce secteur, il y a un avion avec 1,5 milliard dedans.
Par combien de fonds ? 5000 mètres, peut-être ?
Non, en vue de 7 côtes. Pas plus de 100 mètres. Et toutes les cartes marines sont d'accord là-dessus.
Par l'intermédiaire de Delon, François Droubet rencontre en cette même année 1967 le réalisateur Jean-Pierre Melville. Celui-ci l'engage pour écrire la musique de son film Le Samouraï, l'histoire d'un tueur à gages solitaire et taiseux, traqué à la fois par son commanditaire et par la police. Une œuvre noire et glacée dans laquelle la musique traduit l'engrenage fatal de l'histoire.
Samouraï de Melville, la première bobine du film, c'est-à-dire les 10 premières minutes, comportait très très peu de dialogue et Melville souhaitait que la musique donne déjà l'intérieur du personnage que jouait Delon, à savoir déjà un personnage marqué par un passé, par un destin, et je pense que la musique dans le cas du samouraï exprimait ces choses-là. Là, elle avait, si vous voulez, un rôle presque d'explication, ce qui est aussi assez rare.
La télévision sollicite également beaucoup François Droubet pour des génériques d'émissions, de dessins animés et de séries. Par exemple, en 1968, pour la deuxième saison sur le petit écran du feuilleton Les Chevaliers du Ciel. Une série inspirée de la bande dessinée de Charlier et Uderzo, les aventures de deux pilotes de chasse, aussi dissemblables que complices, Tanguy et La Verdure. En 1967, le générique de la première saison avait été interprété par un tout jeune chanteur de 24 ans, Johnny Hallyday. Pour la deuxième saison des Chevaliers du Ciel, en 1968, c'est François Droubet qui est à la manœuvre. En 1968, José Giovanni tourne son deuxième film, Le Rapace. L'histoire se passe dans les années 1930 au Mexique, où un tueur à gages désabusé, joué par Lino Ventura, est chargé d'assassiner le président sur fond d'insurrection menée par des révolutionnaires véreux. Tout naturellement, Giovanni confie la musique du Rapace à François Droubet. En 1968, après déjà 15 musiques de films, la marque de fabrique de Droubet commence à s'imposer dans le cinéma français. Celle d'une mélodie évidente qui accroche l'oreille, mais derrière laquelle se cache de l'audace harmonique, rythmique et orchestrale. Le tout avec une apparente simplicité. L'une des recettes de Droubet, comme en jazz, c'est l'impro.
Le premier instrument dont je me sers, c'est une boîte à rythme. Alors si vous voulez, ça vous donne à la fois le tempo, mais en même temps l'esprit du morceau qu'on veut jouer. Alors évidemment, ce ne sont pas des rythmes très très jolis. La plupart du temps, Je ne les garde pas, mais ils me servent, si vous voulez, de point de départ. Alors, je vais me prendre pour ce morceau-là, voilà, un tempo binaire, comme ça, et on va essayer d'enregistrer un petit blues très simple, binaire.
Il faut dire que François Droubet est un expérimentateur de génie. Il est l'un des premiers à avoir aménagé dans son appartement un studio domestique. Et oui, on ne dit pas encore home studio à l'époque. Il y a un magnétophone 8 pistes, un orgue, de nombreuses guitares et des dizaines d'instruments ethniques ou des percussions qu'il a rapportés de tous les pays où il est allé faire de la plongée à travers le monde. Droubet peut ainsi s'enregistrer à domicile, lui-même directement, avec un instrument différent par piste, ou bien en produisant des bruits avec divers objets. Il a aussi chez lui deux synthétiseurs, parmi les premiers du genre. Il s'est passionné très vite pour ces instruments électroniques qui lui ouvrent les portes d'un monde sonore inédit.
On peut faire beaucoup de choses avec ce synthétiseur, avec une très pâle idée de ce qu'on peut faire en utilisant tous les oscillateurs réglés entre eux. Alors j'aime beaucoup ça parce qu'on peut chercher des sons nouveaux, intéressants.
Mais ce qui fera la patte de François Droubet, ce n'est pas le remplacement des instruments acoustiques par un synthétiseur, mais plutôt le mélange des uns et des autres, comme un pont entre tradition et recherche. Le musicien électro Sébastien Tellier témoigne aujourd'hui des qualités de précurseur de François Droubet en matière d'électronique.
On est aujourd'hui dans une époque où on adore les synthés. C'est-à-dire les synthés qu'utilisait Droubet, c'est des synthés qu'on s'achète les uns aux autres à prix d'or, qu'on recherche dans le monde entier. Ça nous ramène aussi à Droubet parce que lui, ça a été vraiment le français qui a bien expérimenté le synthé, mais très très tôt, c'est-à-dire 70-71, le mec était déjà à fond synthé.
En 1968, la télévision fait encore appel à Droubet pour illustrer le générique d'une série « Les secrets de la mer Rouge ». C'est une adaptation sur le petit écran du livre de 1931 d'Henri de Montfred, une autobiographie qui relate ses aventures de chasseur de perles et de trafiquant d'armes dans la corne de l'Afrique en 1914. La mer, l'Afrique, l'aventure, tout pour plaire à François Droubet. En 2012, Benjamin Droubet, le fils de François, a réalisé un album en hommage à son père, dans lequel il revisite certaines créations de ce dernier. Devenu un tromboniste réputé, Benjamin Droubet nous propose ici une version du générique des Secrets de la mer Rouge, écrit par son père en 1968, mais cette fois-ci plutôt genre western italien. Bof numéro 4 sur MDM, avec Nico à la technique. François Droubet, deuxième partie. En 1970, José Giovanni sollicite de nouveau François Droubet pour la musique de son film « Dernier domicile connu ». Cette musique ne vous est pas étrangère puisqu'elle sert de générique sur MDM à l'émission « Dr Schnock raconte ». « Dernier domicile connu », c'est l'histoire d'un inspecteur de police déclassé, Lino Ventura, qui s'associe à une jeune policière débutante, Marlène Jobert. Et en quelques jours, ils doivent absolument retrouver le témoin d'un crime qui, par crainte d'être éliminé, s'est évertué à disparaître sans laisser d'adresse. La musique de François Droubet réussit parfaitement à témoigner de l'angoisse générale du film et des aléas de cette enquête haletante et incertaine. We'll be right back.
très heureux, mademoiselle.
Moi aussi, monsieur.
Ah, vous arrivez de Lyon?
Oui.
Et vous avez déjà fait ce genre de travail?
Ah non, mais j'y ai beaucoup pensé.
Ah, bon.
La musique de Dernier domicile connu aura marqué les esprits, car c'est celle de François Droubet qui aura été la plus samplée par la suite. Outre de nombreux rappeurs, le chanteur britannique Robbie Williams s'est également servi de cette musique au début des années 2000 pour sa chanson Suprême. Il en a d'ailleurs fait une espèce de mash-up avec I Will Survive.
Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, try on to fight.
En 1970, François Droubet est engagé par Serge Corbert pour la musique du film L'Homme Orchestre. Louis de Funès y joue un maître de ballet pop et psychédélique, aux prises avec ses danseuses et son secrétaire, que joue son propre fils, Olivier de Funès, âgé de 20 ans. Ce film de 1970 est aujourd'hui très largement oubliable, mais sa musique est foisonnante, variée, multiforme. Droubet parvient même à faire chanter ensemble de Funès, père et fils. Je vous propose deux extraits enchaînés de la bande originale.
Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie.
Elles étaient si belles.
Après le film L'Homme Orchestre, le jeune Olivier de Funès deviendra, à la batterie, un habitué des bœufs musicaux improvisés du samedi chez François Droubet, comme un petit frère que ce dernier n'avait pas eu. On écoute un extrait du générique du film L'Homme Orchestre, 1970. Preuve que la base harmonique était déjà sacrément solide, presque 35 ans après L'Homme Orchestre, en 2003, c'est le DJ électro Rubinsteiner qui s'est amusé à délirer à partir de la BO créée par François Droubet.
Tu fais la 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 la.
En 1972, José Giovanni rappelle François de Roubaix pour La Choumoune avec Jean-Paul Belmondo, un film de gangster des années 1930. De Roubaix enregistre la BO de La Choumoune tout seul dans son home studio en jouant lui-même de tous les instruments. Comme souvent avec François de Roubaix, la base mélodique paraît simple, mais tout ce qui se passe derrière est plutôt élaboré.
Dissimulation de cadavre. Ça va chercher 20 ans avec un bon avocat.
Pourquoi tu dis ça?
Parce qu'on est dans la même galère. Associé, si vous préférez.
On va dire au personnel et aux gens, pour lui.
Qui m'a vendu ses parts et qui est parti avec une fille. Une fille de la haute. Le grand amour, quoi.
François de Roubaix est un personnage doublement ancré dans cette période paradoxale des années 60-70. Il est à la fois proche de la nature, des valeurs humanistes et libertaires post-68, mais en même temps, il est questionné par les mutations du monde industriel et le développement de la technologie moderne. C'est pourquoi de Roubaix continue de répondre régulièrement aux publicitaires et entrepreneurs qui le sollicitent pour écrire des musiques sur leurs images.
Ce qui détermine mon choix, c'est bien entendu la qualité et essentiellement l'honnêteté dans le produit. Je m'explique, je ne trouve pas du tout dégradant de faire la musique d'une chose qui est bien évidemment un produit commercial à partir du moment où la chose est bien faite, où elle se présente d'une façon claire.
L'aéroport Charles de Gaulle aime à se présenter comme une machine à prendre et faire prendre l'avion. Ceux qui l'ont conçu ont pour souci constant que cette machine soit à la mesure de l'homme.
Il m'est arrivé, moi, souvent d'avoir à faire de la musique sur ce genre de choses, que j'ai fait beaucoup de courts-métrages industriels, et c'est très passionnant de travailler sur des sujets comme ça, surtout dans la mesure où on voit le résultat. On voit ce que peut faire l'addition d'une partition sur une séquence où on fabrique des camemberts, et à ce moment-là, on voit que les camemberts deviennent quelque chose d'assez fantastique.
La télévision non plus ne lâche pas François de Roubaix. En 1974, il compose le générique de la série animée pour les tout-petits, Chapi Chapeau. Je vous propose ici la version que le malicieux Philippe Catherine n'a pas pu s'empêcher de refaire en 2015, à partir de l'original de Roubaix. Chapi Chapeau, patapo, chapeau, chapi, patati, piripipi, papata, papata. Pacha, pacho, pitipo, pacho, pacha, pitipa, piripipi, rapata, pita. En 1975, Robert Enrico, toujours fidèle à François de Roubaix, lui demande d'écrire la musique du film Le Vieux Fusil. C'est l'histoire d'un médecin pacifiste, Philippe Noiret, qui en 1944 se transforme en vengeur impitoyable pour éliminer un par un les membres d'un commando SS qui ont assassiné sa fille et sa femme, interprétée par Romy Schneider. Dans la partition du Vieux Fusil, François de Roubaix joue sur le dialogue entre deux claviers, censé représenter Noiret et Romy Schneider, deux amoureux, heureux et insouciants comme ils l'étaient avant-guerre et avant le drame. Un an plus tard, lors de la première cérémonie des Césars du cinéma français, c'est François de Roubaix qui remporte le premier César de la meilleure musique de film de l'histoire. Malheureusement, il n'ira jamais chercher le trophée remis ce soir-là par Charlotte Rampling. On est le 3 avril 76, le jour même où François de Roubaix aurait dû avoir 37 ans.
Alors j'ai le grand honneur to say that the winner is, le gagnant est François de Roubaix.
Eh bien, malheureusement, François de Roubaix ne viendra pas recevoir ce César ce soir, car François de Roubaix, excellent musicien de la musique du cinéma français, est mort dans un accident il y a quelques semaines.
En effet, quelques semaines plus tôt, en novembre 1975, François de Roubaix était en vacances aux Canaries en famille. Une nuit, il part avec un ami explorer une grotte sous-marine. Aucun des deux plongeurs n'est jamais remonté. François de Roubaix avait 36 ans. Né au mois de mai précédent, son fils Benjamin n'était alors qu'un bébé âgé de 6 mois. Devenu musicien à son tour, on l'a vu, Benjamin de Roubaix a livré en 2012 une version personnelle de la musique du Vieux Fusil dans le disque hommage à ce père disparu il y a aujourd'hui 50 ans et qu'il n'a jamais connu. Dans les dernières années de sa vie, François de Roubaix s'était essayé à la réalisation. L'un de ses courts-métrages lui vaudra en 1977 un deuxième César posthume, 18 mois après sa mort. Pied de nez dérisoire anticipé, ce court-métrage avait pour titre « Comment ça va ? Je m'en fous ». Et coïncidence troublante avec sa disparition en plongée, la musique utilisée par François de Roubaix dans ce petit film, sa dernière, avait été initialement proposé sans succès en 1974 au commandant Cousteau pour un documentaire sur les fonds marins. Bof, bande originale de film. Bof, l'émission des images qu'on écoute. Une semaine sur deux, mercredi à 10h ou vendredi à 19h. Bof, également en podcast sur www.radio-mdm.fr.